planquer des fonds, comme vous le dites, dans des comptes bloqués ou des fonds de pension. C'est stupide. L'amalgame que vous faites et qui consiste à dire que les riches, c'est la cause de tout et qu'à cause des lois qui sont passées, il n'y a plus de sous dans les caisses, c'est vraiment dangereux parce que c'est faux. Et moi, quand j'écoute une radio, je vais vous dire, quand j'écoute une radio, moi, je veux qu'elle soit factuelle et neutre. Si vous voulez faire Radio Kolkhoz, Radio Sovkhoz ou Radio Staline, vous pouvez le faire, mais ailleurs.
Salut les AMG. Un petit message. Le déséquilibre entre les riches et les pauvres est la plus ancienne et la plus fatale des maladies des républiques. Qui a dit ça? C'est Plutarque d'Athènes. C'était un philosophe grec. Néoplatonicien. C'est grec, toujours une longueur d'avance. Hein, Daniel? À ciao.
Bonjour, moi je m'appelle Philippe, j'habite à Rennes. Salut Daniel et à toute l'équipe. Moi je voulais vous laisser un petit message pour les deux dernières émissions que je viens d'écouter bien attentivement sur les mécanismes orientés de la finance, n'est-ce pas? Et chapeau parce que alors vraiment... Moi, il n'y a plus rien d'autre qui m'intéresse que de connaître la vérité maintenant. Et je me demande à quel point on doit t'emmerder, Daniel, parce que là, on comprend tout, quoi. Et j'aimerais bien savoir si tu pourras nous dire combien de fois tu es embêté par ces pressions gouvernementales pour avoir le courage de diffuser des émissions aussi excellentes. Et franchement, dur le plus longtemps possible, parce qu'à mon avis, on va être de plus en plus nombreux à vouloir avoir ce genre d'émission. Chapeau à toi en tout cas. Et puis bah écoute, hein, je te connais pas, je t'ai jamais vu, mais je t'écoute souvent. Donc au plaisir de te voir un jour. Je vous embrasse tous.
Bonjour, c'est Nicolette d'Ardèche. Et ben, c'était un bien bel exposé sur la dette publique. Mais on dirait quand même qu'il y a d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants, ou bien ceux qui se trompent et ceux qui se trompent pas. Moi je crois pas que les patrons et les gouvernements et tous les financiers sont méchants ou qui se trompent. Les capitalistes, leur gouvernement, le FMI, la Banque européenne ont raison de leur point de vue, pour leurs intérêts. Nous, on a d'autres intérêts. Il semble du coup qu'il manque un peu le début de l'histoire, le pourquoi les capitalistes se sont tournés massivement vers le financier, au lieu de continuer comme avant à investir dans la production. C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à vendre suffisamment. C'est pas parce que la population mondiale a tout ce qu'il lui faut, hein, bien sûr que non. Mais une fois que ceux qui peuvent acheter ont acheté, qu'est-ce qui reste? La surproduction, les bananes, les voitures, les maisons. On pourrait croire qu'il suffirait d'augmenter les salaires. Mais comment voulez-vous qu'une entreprise soit rentable si elle augmente son prix de production? Pour être concurrentielle, une entreprise doit fabriquer plus, plus vite et moins cher que son voisin. Sinon, elle crève, elle est bouffée par le voisin. Donc comme le marché mondial est bouché, les entreprises se tournent vers la finance, ça rapporte mieux, jusqu'à ce que les bulles pètent, les emprunts ne soient plus remboursés, que les banques flageolent, que les États compensent, que finalement les États flageolent. Alors si on ne fait que annuler la dette, ça ne va pas changer grand-chose, parce que ça recommencera. Et Eric Toussaint a bien raison de dire qu'il faut reprendre les banques sans rien leur donner. Moi, je dirais qu'il faut même prendre les usines et toute l'économie à notre compte pour en faire une économie qui fonctionne pour l'humanité et pas pour les profits. Ou alors, une bonne guerre, on détruit tout et hop, retour aux 30 glorieuses capitalistes. Bonne continuation.
Ben alors, pourquoi pas une bonne guerre? Quelle idée. En tous les cas, merci pour vos messages. Et effectivement, ces deux heures sur la dette publique, ben ça vous a intéressé, ça vous a passionné même. Merci à vous donc. Aujourd'hui, on part pour la Syrie. On part pour la Syrie, vous suivez ce qui se passe sans doute en Syrie. Vous savez ce que font les Syriens. En ce moment, ils attendent tous l'arrivée de BHL. Ils sont inquiets de tous les côtés. Ils disent quand est-ce que notre sauveur va arriver. Ils sont là en train de tourner en rond. Non, mais sérieusement, que se passe-t-il en Syrie? Alors, on va évoquer ce qui se passe en Syrie avec deux journalistes. Et presque, on pourrait dire, deux journalismes. L'un, c'est Jérôme Bastion, vous connaissez ce nom-là, c'est un correspondant permanent à Istanbul, en Turquie, c'est un vieil ami de là-bas si j'y suis, un vieil ami personnel, et vous savez qu'il y a une frontière entre la Turquie et la Syrie, une longue frontière entre les deux pays, et tout récemment, ces jours derniers, Jérôme Bastion a franchi cette frontière nuitamment et est entré en Syrie et est allé jusqu'à Homs, d'où il a rapporté des reportages, des moments très forts que vous allez entendre aujourd'hui. Ça, c'est une approche de journaliste de terrain, de reporter de terrain, qui physiquement va éprouver et témoigner de ce qui se passe. Et puis, un autre journalisme, celui d'Alain Grèche. Alain Grèche, que vous connaissez, directeur adjoint du Monde diplomatique, un très très bon connaisseur du Proche et du Moyen-Orient, et qui, lui, voit ça évidemment de loin, avec le recul. Il connaît bien le terrain également, mais il n'est pas du tout du genre à aller comme ça, de nuit, crapahuter, dans les montagnes et sur le terrain. C'est deux approches différentes. Et vous allez voir comment, quand on est sur le terrain, le nez sur le terrain, dans la bagarre, dans les tirs, etc., ben, on comprend un certain nombre de choses, mais pas tant que ça, et comment de loin, eh bien, on peut analyser un certain nombre de choses, mais pas toutes non plus. Donc c'est ces deux approches qu'on vous propose aujourd'hui, une émission un peu spéciale de là-bas, si j'y suis. C'est pas seulement une réflexion sur le journalisme, évidemment, à laquelle nous vous convions, c'est une façon évidemment d'essayer de comprendre et de saisir cet enjeu crucial qu'est actuellement le conflit qui torture, peut-on dire, la Syrie. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à vous. Voilà, je m'appelle Mathilde et puis je suis professeure de français pour des adultes. Et puis bon, la période le veut, donc je voulais faire part de ma petite perle de l'année. J'ai une étudiante qui a écouté une chanson de Cabrel, en fait, voyez la chanson qui fait « Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes ». Et du coup, elle a compris « Et quoi que tu fasses, l'amour partout où tu regardes, quoi ». Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Allez, bien à vous, à bientôt, ciao.
Un président français vient d'être condamné pour le principe à une peine symbolique. Bon, vous le savez, tout le monde est au courant. Mais moi, j'aimerais revenir sur des événements plus anciens, à une époque où on nous parle de tentative d'audit sur la dette publique, ce qui est aussi une tentative extrêmement louable. Et je ne voudrais pas qu'on oublie la mort d'un homme, pourtant, qui était bien droit et qu'on a assassiné. Il s'agit de Robert Boulin. Ça fait déjà longtemps qu'on pille les finances de la France, qu'on cède notre fortune à des intérêts privés qui, en compensation, ou plutôt en récompense, nous criblent de dettes. N'oublions pas Robert Boulin et n'oublions pas non plus, essayons de retrouver tous ces assassins, les assassins de Robert qui coulent des jours paisibles et heureux. Ne l'oublions jamais. Merci beaucoup et à bientôt.
Nous ne tuons pas notre peuple.
Bachar al-Assad.
Aucun gouvernement dans le monde ne tue son propre peuple.
ABC, 7 décembre 2011.
À moins d'être dirigé par un fou.
Cet homme était sorti pour acheter du pain et du houmous pour ses jeunes frères. Et il a été abattu dans cette même rue du quartier. C'est un sniper qui l'a abattu.
Je suis devenu président grâce au soutien de mon peuple. Il est impossible que quiconque dans mon pays ait pu donner l'ordre de tuer.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil, là-bas j'y suis, avec Jérôme Bastion, avec Alain Grèche, révolte en Syrie.
Flight number 2, arriving from New York.
La nuit est totalement noire. On voit des ombres qui circulent dans tous les sens. On entend des coups de feu de temps en temps. Il faut rester sur un côté du trottoir tout sans fil, puis s'arrêter, surveiller ce qui se passe. Des gens nous accompagnent le long d'un, d'un pâté de maison nous quitte en nous donnant des conseils. Première à droite, première à gauche. Maintenant, on traverse un par un en courant. Oui.
Plus vite, plus vite.
On ne sait pas du tout ce qui se passe dans ces quartiers. C'est vraiment Beyrouth. D'un pâté de maison à l'autre, le camp peut avoir changé. Personne ne voit rien. Personne ne sait vraiment rien, en fait. Si ça, ça s'appelle pas un début de guerre civile, je sais pas ce que c'est.
Voilà, la scène se passe à Homs. Celui qui parle, c'est notre ami Jérôme Bastion, qui est journaliste, qui est reporter, basé à Istanbul, et qui, avec une toute petite équipe de confrères, et avec un passeur rémunéré, a franchi la frontière entre la Turquie et la Syrie il y a quelques jours, et qui, après une longue marche de nuit dans les montagnes, est arrivé jusqu'à Homs. Et il a rapporté, il nous a envoyé ces images sonores pour que nous puissions comprendre, saisir, comprendre c'est beaucoup dire, mais en tous les cas saisir, sentir, ressentir ce qui se passe actuellement en Syrie. Et puis je le disais en commençant, on aura aussi Alain Grech qui nous apportera ses analyses sur la situation. Il y a exactement un an, le 16 décembre 2010, qui aurait cru à ce qui allait se passer le lendemain, le 17 décembre 2010 exactement, Mohamed Bouazizi, ce jeune Tunisien s'immolait par le feu. Et c'était un événement imprévisible. Bien sûr qu'après, on dira, mais c'est parce que. Mais bien sûr, c'était un événement qui, par nature, est imprévisible, qui allait déclencher ce qu'on a appelé le printemps arabe, cette succession de révoltes arabes, la Tunisie, et puis l'Égypte, Bahreïn, Yémen, tous les pays arabes ont été secoués par la suite de cette tragédie. La Syrie, évidemment, en fait partie. En un an, en moins d'une année, la face du monde a changé, l'éclairage sur ce monde arabe a changé, l'image du monde arabe a changé. Pour beaucoup, il était absolument inaccessible à la démocratie. C'était la vision impériale, coloniale, on peut dire aussi raciste en grande partie, qui voulait que ce monde arabe fût inaccessible à la démocratie. Il est entré dans la démocratie, pas forcément sous la forme et avec sous les angles qui auraient plu à certains, mais il vit son destin. Il est entré, ce monde arabe, dans un processus qui est le sien. Mais de quel monde arabe parlons-nous ? Bien sûr que chacun de ces pays a son destin, a son histoire, a sa complexité, a son positionnement géopolitique. La Syrie n'est pas la Tunisie. Le Yémen et Bahreïn n'ont pas grand-chose à voir, finalement, dans leurs environnements réciproques. Évidemment que la Syrie est un lieu particulièrement névralgique du Proche et du Moyen-Orient. frontière avec, avec la Turquie, avec Israël, avec l'Iran. C'est un endroit extrêmement, extrêmement névralgique. Et puis, il y a cette vision que nous avons toujours, nous autres, bienheureux Français, avec notre État-nation accompli, qui met de côté toujours les composantes d'un pays comme la Syrie, qui est un jeune pays. Mais à l'intérieur de ce pays, il y a, on va dire, des sensibilités religieuses. On va souvent, nous, repérer les choses à travers une grille confessionnelle, mais qui ne recouvre souvent pas la vérité. Souvent, ce sont on peut dire des ethnies ou des tribus ou des cultures ou d'autres nations qui sont à l'intérieur d'une nation comme la Syrie et qui ont leurs intérêts, qui ont leur position à l'intérieur du pays et qui évidemment tantôt s'entendent, s'harmonisent, s'allient et tantôt s'affrontent. Et dans un moment de mûrissement comme celui-là, eh bien, ces affrontements sont d'autant plus vifs. Il n'y a donc pas, d'un côté, un front de libération uni et en face, un épouvantable tyran. C'est la vision, évidemment, facile, ou c'est la vision que nous avons, que nous plaquons trop souvent sur ce genre de conflit. D'où l'intérêt, peut-être, d'être avec nous jusqu'à 16h dans Là-bas si j'y suis, avec Jérôme Bastion. Lui est sur le terrain et les analyses d'Alain Grèche, le tout monté et présenté par Give Anquetil. Révolte en Syrie.
Les vendredis, à la mi-journée, c'est la grande prière. Et juste après la grande prière, c'est aussi la grande manifestation, ou les grandes manifestations, quasiment dans tous les quartiers, encore plus nombreuses et encore plus bruyantes. Dans ce petit quartier de Kalkidia, sur cette petite place, il y a là déjà 200, 250 personnes qui crient, qui chantent. Les familles sont venues avec les enfants sont portés sur les épaules, comme si personne n'avait peur de rien. C'est très musical, on crie beaucoup contre le régime de Bachar el-Assad, et puis tout d'un coup... La manifestation est brutalement interrompue par des rafales de tirs automatiques. Tout le monde s'est dispersé, ou quasiment. Maintenant, on cherche, la foule cherche s'il y a des blessés, d'où ces tirs ont pu venir. Comme presque tous les vendredis, les manifestations sont réprimées dans le sang à Homs. En quelques minutes, les manifestants ont identifié la rue du bout de laquelle le sniper...
À
quelques minutes, les manifestants ont identifié la rue du bout de laquelle le sniper, le tireur embusqué, tirait sur la foule. Ils sont maintenant répartis de chaque côté et ils surveillent, ils provoquent même, on peut dire, ils s'amusent à traverser la rue en courant pour forcer le sniper à montrer d'où il tire, tout en criant « Allahu Akbar » et en agitant des grands drapeaux de la Syrie de l'indépendance, le drapeau de l'ancienne Syrie, d'avant le régime de Bachar el-Assad. La foule s'en va en courant apparemment. Des véhicules des forces de sécurité se rapprochent.
Il y a très peu de journalistes en travail et peuvent entrer en Syrie. On voit la tension et c'est le cas aujourd'hui même. 200 000 manifestants aujourd'hui dans la ville de Homs, qui est le haut lieu de la résistance et de la contestation et de la révolte contre le régime de Bachar el-Assad. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement en Syrie? Ces images nous font sentir ce qui se passe, mais pas forcément comprendre ce qui se passe. Alain Grech.
Alors Alain Grech, bonjour, on vous retrouve dans les locaux du Monde Diplomatique pour un petit cours particulier de mise à niveau sur la situation en Syrie. Les soulèvements ont commencé à la mi-mars dernier, ça a été tout de suite vu dans la perspective des printemps arabes, après l'Égypte, après la Tunisie, après la Libye, le prochain effet domino de ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Alors, commençons, si vous le voulez bien, avec justement un peu un état des lieux avant d'élargir sur le Proche-Orient et la région.
D'abord, ce qui se passe en Syrie s'inscrit tout à fait dans le cadre des révolutions arabes. Les trois causes qui sont à l'origine de ces événements sont présentes en Syrie, c'est-à-dire le rejet d'un système autoritaire qui n'a de compte à rendre à personne, une situation économique et sociale très difficile avec un creusement des inégalités dues notamment aux politiques de libéralisation, et une place particulière de la jeunesse. Le monde arabe est la région la plus jeune de la planète, et parmi les pays les plus jeunes, il y a la Syrie. Donc ces trois points, vous les retrouvez partout. Après, le mouvement se développe dans un cadre qui est très différent selon les pays, selon sa place, selon sa composition sociale, selon l'histoire de son système politique. En Syrie, vous avez plusieurs caractéristiques. C'est que, évidemment, beaucoup plus que la Tunisie, le Maroc, la Syrie est partie d'un conflit régional qui est le conflit israélo-arabe. Et donc, il a de ce point de vue un intérêt stratégique. Et il n'y a pas que des dimensions internes à ce qui se passe en Syrie. Il y a les conséquences qu'aurait un changement de régime en Syrie sur toute la région. Et la deuxième chose qui fait la particularité de la Syrie, c'est que c'est un pays dit multiconfessionnel, c'est-à-dire dans lequel la majorité de la population est musulmane sunnite. Une minorité d'environ 15% est alawite, c'est-à-dire, on peut dire très rapidement chiite, même si c'est une branche très particulière du chiisme. C'est cette minorité qui est au pouvoir à travers la famille Assad, même si non plus elle n'est pas une minorité totalement unie. Et puis il y a d'autres minorités, notamment les chrétiens, notamment les druzes, les kurdes, etc.
Même les tcherkesses.
Même les tcherkesses. Donc c'est une composition ethnique avec une dimension qu'il faut bien comprendre quand on parle ici de chrétiens ou quand on parle d'alawites, pour nous c'est des religions. Là-bas c'est pas ça, c'est une partie c'est quasiment une nation avec ses règles de fonctionnement, avec ses propres autorités religieuses. Donc on est vraiment dans des communautés qui se vivent comme une réalité nationale. Et donc ça c'est des ingrédients très dangereux parce que il y a un risque, mais bon, on va peut-être y revenir, de transformation du conflit qui était au départ un conflit pour renverser une dictature en un conflit qui serait un conflit, une espèce de guerre civile entre ethnie et confession.
Un blessé qui arrive dans une voiture, tout près de la place où les coups de feu ont retenti. Il est descendu de sa voiture. Il a été blessé à la jambe apparemment. le transporte rapidement dans un petit dispensaire clandestin, caché dans un appartement. Et nous voilà dans la salle du petit dispensaire clandestin où il y a déjà un blessé qui est en train d'être soigné. Ce petit dispensaire de campagne est installé dans une cave où il y a une machine à coudre, une cave qui sert de dépôt aussi, il y a toutes sortes de matériel. Le dernier blessé qui vient d'arriver est touché à la jambe, une balle manifestement. Le premier est touché au ventre, au bas-ventre. Tout le monde s'affaire autour des deux blessés. On installe une perfusion. Le blessé, donc, atteint à la jambe, nous explique ce qui lui est arrivé.
J'étais de l'autre côté de la rue. Un tank a commencé à tirer vers nous et j'ai été touché.
Et qu'est-ce qu'il a eu alors ?
La balle est entrée. La balle est rentrée par ici dans la jambe.
Elle est ressortie ?
Oui, elle est sortie par là.
C'est le responsable de cet hôpital.
C'est lui qui a ouvert cet hôpital.
Oui.
La raison pour laquelle on a ouvert cet hôpital de fortune ici, c'est qu'au début de la révolution, mon cousin a reçu un tir et a été blessé. On l'a conduit à l'hôpital public pour qu'il soit soigné et on l'a retrouvé mort avec une balle dans la tête. On a donc ouvert ce dispensaire avec des médecins pour essayer de soigner les blessés. Et nous avons réussi à sauver beaucoup de gens ici.
Dans la pièce contiguë, il y a une pièce qui sert de morgue. Il y a là par terre un jeune homme, il a à peine 20 ans. Sa poitrine est traversée de plusieurs tirs, il a les mains et les pieds attachés. Il est mort il y a quelques heures, tué par un sniper.
Il est mort hier. Il a pris une balle dans la poitrine, c'est ça ?
Non.
Il va être
le sotro. Il va être le sotro. Il va être le sotro. Il va être le sotro. Il va être le sotro.
Cet homme était sorti pour acheter du pain et du houmous pour ses jeunes frères. Et il a été abattu dans cette même rue du quartier. C'est un sniper qui l'a abattu. Ce sniper, maintenant, on sait où il est et d'où il tire. Dans le quartier, il y a maintenant des rues où les gens évitent de passer à cause des tirs des snipers. Et le même sniper a abattu 3 autres personnes hier et tire régulièrement sur les habitants du quartier.
Tout d'un coup, la famille de la jeune victime débarque, il y a sa maman et à son frère. Tout le monde est en pleurs.
Alain Grèche, il y a beaucoup de témoignages et de reportages qui sont sortis ces derniers jours de journalistes qui sont allés dans des conditions difficiles, dans les zones où se passe ce soulèvement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui est ramené, des instantanés qui sont ramenés actuellement de cette région centre du pays de Homs et de Hama, où vous avez été, vous, en juillet dernier pour le monde diplomatique, sur l'état, l'étendue et l'importance de cette contestation?
C'est une situation difficile à comprendre, la situation en Syrie, quand on se limite, si vous voulez, à ce qu'on voit sur place. Quand on voit aujourd'hui les reportages sur les groupes armés qui ont commencé à se développer, c'est intéressant de voir qu'est-ce que fait ou peut faire ou ne peut pas faire un groupe armé, mais qu'est-ce que ça nous donne de la connaissance du pays. Quand on envoie des journalistes sur place dans n'importe quel pays, on voit souvent qu'une partie des choses. Après, ce qu'on peut essayer, c'est d'essayer, à partir des différentes informations qui arrivent, de construire une analyse. Donc, il faut prendre ces témoignages avec d'autant plus de prudence que, en partie, ils sont évidemment manipulés par tous les acteurs. Quand vous regardez la télévision syrienne, on vous montre tous les jours des terroristes arrêtés, des gens qui ont pris les armes contre le régime, et on vous dit, mais ce n'est pas du tout des manifestations pacifiques.
Ça, c'est la version de la télévision officielle.
Officielle syrienne. Quand vous voyez Al Jazeera, ce qui est frappant, c'est qu'on vous montre des images de manifestations. C'est impossible de savoir si elles se déroulent vraiment. Et puis, il les passe en boucle. Donc, quand on les a vues toute la journée, mais c'est souvent les mêmes images, on a l'impression que le pays est à feu et à sang. C'est-à-dire qu'il y a une idée que, bon, on a d'un côté une dictature sans aucun soutien et de l'autre, une opposition massive. Alors, si c'est vrai qu'il y a une opposition massive à la dictature, il faut nuancer de deux manières, si vous voulez. D'abord, c'est que le régime, par sa propre habileté et en jouant sur les divisions confessionnelles, a su créer autour de lui un certain soutien populaire, moins un soutien au régime qu'une peur de l'avenir. Et donc, il vaut mieux, comme dit quelqu'un, le diable qu'on a que le diable qui va venir. C'est vrai, évidemment, dans la communauté alaouite qui est au cœur du pouvoir, des services de renseignement, de l'armée. C'est vrai des chrétiens. Il y a toutes les semaines des manifestations dans les quartiers chrétiens de soutien à Bachar el-Assad, d'ailleurs plus à Bachar el-Assad personnellement qu'au régime. Et vous avez aussi les Druzes, les Kurdes qui en ce moment, qui ont été les premiers à descendre dans la rue, mais en ce moment ils sont plutôt sur une position attentiste. On a un pouvoir qui sait jouer avec ça, qui utilise tout ça, qui a des moyens, il dirige le pays depuis 40 ans, il sait faire avec ça. Donc ça serait faux de le représenter comme reposant uniquement aujourd'hui sur la répression. En face, vous avez une opposition qui représente, à mon avis, la majorité dans le pays, mais qui est en même temps très désunie. Entre les différentes fractions, il y a évidemment les mêmes courants laïcs, frères musulmans qu'il y a partout. Il y a des groupes armés qui sont très actifs, dont certains sont aidés à partir du Liban et de l'Irak avec des combattants djihadistes. Enfin, donc c'est quand même, on n'a pas l'impression d'une opposition qui a un projet. Alors, à partir de quel moment il y a eu des actions armées, c'est difficile de le dire. Le régime les a dénoncées depuis le début. Et c'était une manière pour le régime de discréditer les manifestants. Ce qu'on peut dire, c'est que massivement, le mouvement était pacifique et se voulait pacifique. Mais à partir d'un moment, sous l'effet d'armes qui venaient sans doute du Liban, de l'Irak, de quelques combattants aussi, il y a eu un début de militarisation. Et au fur et à mesure que la répression se faisait plus forte, une partie des gens pensaient que la seule manière de faire face à cette répression, c'était de s'armer. Donc aujourd'hui, il y a de vrais combats, il y a des officiers, il y a des soldats qui sont tués. Donc ça prend ce caractère de guerre et c'est, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que l'utilisation des armes, elle a beaucoup de défauts, à part qu'elle tue, évidemment. Ça habitue les gens à penser que les problèmes politiques peuvent se régler par la force. Et ça, c'est très dangereux. C'est ceux qui ont les armes qui décident. Et ça, on le paye après d'un prix très cher. Donc, si vous voulez résumer, on est dans une vraie impasse. C'est-à-dire, je pense que le régime est fini. Au sens profond du terme, c'est qu'il n'a pas d'avenir. Mais qu'en même temps, le problème, c'est comment on assure la transition. Comment on va en sortir concrètement. Ouais. Le grand danger, c'est pas que le régime se maintienne, c'est que le pays explose. D'une certaine manière, aujourd'hui, c'est le problème est de savoir comment on peut sortir la Syrie sans guerre civile. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important et sur lequel les politiques, notamment, devraient réfléchir. Qu'il y ait des dénonciations des exactions du régime, je pense qu'elles sont nécessaires, que les organisations de défense des droits de la personne doivent le faire. Aucune condamnation morale n'a jamais fait tomber un régime. Il faut essayer de bâtir une solution pour sortir de cette crise sans que le pays s'effondre. C'est ça vraiment l'enjeu aujourd'hui.
Rami, come.
Yes, I work.
Come.
Aywa. Look, this. Huh? Mm-hmm. Aywa. Okay. Look. Okay. Aywa.
It's okay.
Bye.
Il faut courir pour traverser certaines avenues. Certaines avenues larges, parce que paraît-il, les gens s'arment pour tirer sur ceux qui ne sont pas du quartier. Et pourtant, le quartier est quasiment dans l'obscurité. Il y a des véhicules calcinés et des tas d'immondices qui jonchent les rues. Nous traversons.
No problem, man.
traversons la ville à la tombée de la nuit. La ville est quasiment partout sans électricité. Et les gens se faufilent à toute vitesse, courent parfois pour rejoindre leur destination. C'est des gens armés. Un groupe d'hommes lourdement armés avec des fusils mitrailleurs et M16, manifestement. C'est le quartier où l'armée libre de Syrie est fortement implantée, paraît-il. Ils nous demandent qui nous sommes. Un coup de lampe de poche. Et à la réponse de notre accompagnateur, ils ont compris que on était, si on peut dire, du bon côté.
Il n'est pas difficile de discuter avec ces déserteurs. Nous en rencontrons trois dans une maison du quartier, ce quartier qui vit tous les jours au rythme des combats. La nuit, ils se battent et le jour, ils se cachent. Quand on les rencontre, ils se cachent derrière un keffieh et ils parlent en cachant leur identité, bien entendu, mais en montrant leur carte de l'armée nationale de Syrie. En tout, il y aurait ainsi 15 à 20 000 déserteurs de l'armée nationale qui ont rejoint les rangs de l'armée libre de Syrie, l'ALS.
J'ai quitté l'armée syrienne parce qu'ils me demandaient de tirer sur les manifestants. Pas seulement pour les blesser, mais pour les tuer. Et j'ai rejoint l'armée syrienne libre parce que ce sont les seuls qui défendent le peuple et les civils.
Moi, je suis dans les tanks de l'armée syrienne. On m'a demandé de tirer au fusil mitrailleur sur les manifestants. Et ceux qui ne tiraient pas, les forces de sécurité menaçaient de les tuer ou de les jeter en prison. Alors, quand il fallait tirer sur les maisons, je visais en l'air, les terrasses, pour ne blesser personne. Parce que tous ceux qui ne tiraient pas, les forces de sécurité les abattaient. Parce qu'ici, ce sont les forces de sécurité qui commandent à l'armée. C'est pour ça que j'ai déserté.
C'est avec Jérôme Bastion, un des rares journalistes étrangers qui est pénétré en Syrie et qui a enregistré ces scènes et ces rencontres, notamment avec ces déserteurs de l'armée syrienne, passés à l'ALS, l'armée libre de Syrie, évidemment avec toutes les prudences habituelles face à ce qui est très souvent qui relève de la propagande. Il faut toujours se demander dans ces situations pourquoi me parle-t-il quand on est un journaliste et un reporter. Et ceux qui parlent ont généralement une idée bien précise précise derrière la tête. Voilà pourquoi nous sommes également avec Alain Grech, qui analyse la situation de façon plus générale, évidemment, depuis son bureau du monde diplomatique, même s'il connaît très très bien le terrain. Bien évidemment que la Syrie s'inscrit dans sa région, dans sa région, je le disais en commençant, une région extrêmement sensible, extrêmement névralgique, qui est celle du Proche et du Moyen-Orient. C'est l'articulation entre les deux. Et ce qui se passe actuellement en Syrie ne sera pas sans conséquence et n'est pas sans conséquence avec les pays voisins. Et les pays alentour ne sont pas sans conséquence non plus, évidemment, sur ce qui se passe actuellement, ces jours-ci, ces heures-ci, à l'intérieur de la Syrie.
Donc si je comprends bien, Alain Grech, une des conséquences du basculement qui a lieu en ce moment en Syrie, c'est un changement de la donne politique de la région. Alors comment on peut essayer d'appréhender point par point une vision un peu générale de la région et des rapports de force en présence ?
Une première remarque, c'est qu'on est dans une région en mouvement. C'est-à-dire, finalement, toutes les règles qu'il y a eu depuis 67, en gros, qui ont forgé là, sont en train de se défaire. Et c'est très difficile de dire quelles vont être les nouvelles. Donc il faut tenir compte de ça parce que les évolutions ne sont pas évidentes. C'est vrai qu'au début des révolutions arabes, l'axe qui se prénommait l'axe de la résistance, c'est-à-dire Iran, Syrie, Hamas et Hezbollah, a semblé gagner. Parce que le régime égyptien est tombé, le régime tunisien est tombé, deux régimes pro-occidentaux. Donc on a eu vraiment l'impression que l'Iran et ses alliés avaient le vent en poupe. Et puis le mouvement qui a été déclenché fondamentalement par des raisons internes, a frappé la Syrie et pose aux acteurs qui ont une vision régionale des difficultés. On l'a vu, par exemple, avec les différences de position entre le Hamas et le Hezbollah. Alors que le Hezbollah a soutenu et continue à soutenir le régime syrien, le Hamas a pris ses distances et pratiquement ne dit rien sur le régime syrien. Il est même en train, semble-t-il, de déménager une partie de ses cadres de la Syrie vers le Liban, l'Égypte, etc. Donc cet aspect est important. En même temps, sans préjuger de qu'est-ce que pourrait être demain un gouvernement syrien démocratique, il faut rappeler que la Syrie est, comme on aimait à le dire en Syrie, le cœur battant de l'arabisme et qu'il est peu probable que un nouveau régime syrien soit moins intransigeant à l'égard d'Israël ou moins déterminé à l'égard d'Israël que ne l'est le régime actuel. Maintenant, il y a une peur quand même de tous les acteurs, y compris d'Israël, des conséquences d'un changement. Parce qu'il y a la peur d'un côté que le pays éclate et que finalement la frontière syro-israélienne, qui a été globalement une frontière très sûre depuis la guerre de 73, il y a eu très très peu d'affrontements. Donc ça, c'est effectivement un risque que craint Israël, plus ils craignent l'arrivée des frères musulmans au pouvoir s'il y a un changement en Syrie, c'est-à-dire on aurait un axe entre la Syrie, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Hamas. Donc, une situation qui ne serait pas du tout meilleure ni pour Israël ni pour les États-Unis.
Alain Grech, aussi, ces événements, en tout cas le moment où on prend pour essayer de les comprendre, coïncident avec le retrait des troupes américaines en Irak. Est-ce que ça veut dire que cette région-là va être encore source d'instabilité ?
L'élément important, comme vous dites, c'est la décision des Américains de se retirer d'ici la fin de l'année en Irak et l'annonce que d'ici 2014, ils auront quitté l'Afghanistan. Ça se place vraiment dans un cadre d'un changement qui est plus large que la région du Proche-Orient, qui se place, à l'échelle de la planète, c'est-à-dire un affaiblissement relatif des États-Unis. Et un retrait relatif des États-Unis qui n'ont plus les moyens, ils sont en pleine crise économique. Et de cet affaiblissement, la plupart des acteurs locaux ont pris conscience, y compris les alliés des Américains comme l'Arabie saoudite. Donc, dans ce cadre-là, on a un jeu d'une certaine manière plus ouvert, dans lequel les puissances locales, Arabie saoudite, Égypte, Iran, Syrie, Turquie, jouent leur propre jeu. Alors, ce n'est pas pour dire que les Américains ont perdu toute influence, mais encore une fois, sortons un moment du cadre syrien et irakien et un phénomène qui existe depuis, qui a commencé il y a une dizaine d'années, qui est une espèce de basculement du monde, que je résume dans une phrase, bon, qui est évidemment schématique, c'est la fin de deux siècles de domination occidentale sur la planète. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre, parce que les révolutions arabes ne sont pas, elles sont pas un élément de ça, mais elles ne sont pas détachées non plus de cette réalité.
Mais là, ce que vous dites, c'est que ce qui se passe en Syrie est une preuve de plus de cette perte de pouvoir occidental.
Et on voit, ils sont plus l'acteur central qu'ils étaient avant. Et c'est une des choses qui rend la situation aussi assez ouverte, c'est qu'on ne sait pas vers quoi on va, parce que les Américains ne sont pas capables aujourd'hui ni même de percevoir un avenir, et encore moins de l'imposer. Si vous voulez, qui intervient ? C'est la Ligue arabe, poussée par les Saoudiens, poussée en partie par les Américains, les Européens, etc. Mais avec une certaine autonomie de cette Ligue arabe par rapport à cette volonté américaine ou désir européen. Donc, il y a une plus grande difficulté à peser sur les événements. En dernière instance, les affrontements en Syrie se décident en Syrie et dans la région. Ils ne se décident plus à Washington, ils ne se décident pas à Paris. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Petite manifestation spontanée, improvisée apparemment, dans un quartier bourgeois du centre de Homs. Pas très loin d'ailleurs d'un centre où restent les Chebiha, les fameuses milices qui font tellement de dégâts lors de ces manifestations. Il y a des femmes, il y a même certaines jeunes femmes qui sont découvertes. Et les jeunes qui organisent ça se précipitent pour mettre en travers de la route des grosses bennes poubelles pour éviter que les forces de sécurité ou les Chebiha interviennent. Il y a environ 50, 70 personnes, peut-être pas plus. Les passants du coin sont un peu surpris. Les femmes courent se mettre à l'abri. Tout le monde chante, tape dans les mains, les hommes sautent. Les femmes tapent dans les mains aussi, et tout cela sous les couleurs du drapeau de l'indépendance syrienne, c'est-à-dire un drapeau composé d'une bande verte, d'une bande blanche et d'une bande noire, la verte remplaçant la rouge actuelle, et de trois étoiles au lieu de deux, trois étoiles rouges sur la bande blanche. Les rangs de la manifestation grossissent assez rapidement, c'est étonnant, parce que c'est une manifestation tout à fait spontanée, dans un quartier plutôt inattendu. Les femmes sont de plus en plus nombreuses, les hommes aussi. On dépasse maintenant la centaine de personnes, alors qu'il y avait à peine 10 minutes, ils étaient une cinquantaine. On a installé un haut-parleur électrique, il y a des instruments de musique qui arrivent. Beaucoup de femmes, avec des voiles blancs et des grandes lunettes de soleil, plutôt jeunes dans l'ensemble. C'est ainsi que les jeunes de Homs défient quotidiennement, d'endroit en endroit, de quartier en quartier, le pouvoir de Bachar el-Assad, au risque de leur vie.
Cinq minutes à peine après la fin de la manifestation, deux véhicules blindés légers arrivent sur les lieux, mais il n'y a plus personne. Les jeunes se sont dispersés. Le temps de cette manifestation, 15 minutes, ça suffisait pour faire sortir les forces de sécurité de leur centre. Mais quand ils arrivent, il n'y a plus personne.
Une lueur d'espoir pour les opposants du régime syrien, la Russie vient de lâcher Bachar al-Assad, ou presque.
Euronews, 16 décembre 2011.
Après 10 mois de répression et 5000 morts, Moscou a proposé un projet de résolution condamnant les violences en Syrie perpétrées par toutes les parties. Les Nations Unies vont peut-être pouvoir agir pour mettre un terme à la répression. Paris et Washington se félicitent de ce revirement, même si le projet de résolution doit être retravaillé, comme l'explique Hillary Clinton. Heureusement, nous allons pouvoir travailler avec les Russes, qui pour la première fois ont reconnu que ce qui se passe en Syrie mérite d'être discuté au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons quelques désaccords sur la manière de traiter la question, mais nous espérons pouvoir travailler ensemble.
Alors voilà, on a grandi encore. Évidemment, le cercle autour de la Syrie. C'est-à-dire que Jérôme Bastion était mêlé dans une scène au coin d'une rue à Homs. Et puis là, on ouvre sur la politique mondiale, la vision mondiale de ce conflit avec la position de la Chine et celle de la Russie, j'allais dire de l'URSS, de la Russie. La question qui peut se poser, c'est est-ce que BHL va pouvoir manger sa bûche de Noël tranquillement, ou bien est-ce que l'histoire à nouveau ne va pas le tirer par la manche pour lui demander de venir sauver le peuple? C'est une question qu'on peut quand même se poser et que nous posons à Alain Grèche, ou plutôt faut-il ou non intervenir?
Il y a des discours européens, il y a des mesures prises par l'Europe, des sanctions contre la Syrie importantes, il y a des déclarations très dures contre le régime syrien, qu'il a perdu sa légitimité, que Assad devrait être devant la Cour pénale internationale, etc. Mais les moyens de transformer ça, comme on l'a fait en Libye, en une intervention militaire, à mon avis, n'existent pas. Les Russes et les Chinois mettront un veto absolu à toute intervention militaire. Ils ont été échaudés par la Libye, puisqu'on leur a fait voter une résolution qui ne prévoyait pas du tout une intervention militaire et qui s'est transformée comme ça. Donc, ils ne donneront pas leur aval. Et en Libye, il a fallu 6 mois pour se débarrasser de Kadhafi, qui ne représentait pas une force militaire très importante. En Syrie, où on a un régime, comme j'ai dit, qui s'appuie sur des forces intérieures, une intervention occidentale aurait des effets catastrophiques et soulèverait sans doute une opposition très forte dans la planète. En plus, avec le risque que la guerre s'étende avec le Hezbollah, avec l'Iran, avec Israël.
Pour résumer, Alain Grèche, on a compris que la situation était irréversiblement changée, que la donne était encore ouverte. Quel peut être le mauvais scénario et le bon scénario dans un avenir proche?
Le mauvais scénario, il y en a deux, qui ne sont pas d'ailleurs incompatibles entre eux. C'est une guerre civile en Syrie ou une guerre régionale avec Israël et l'Iran, etc. Ça aurait des conséquences désastreuses. Le scénario positif, c'est que les changements qui ont commencé en Tunisie, en Égypte, s'étendent petit à petit, qu'on ait des pouvoirs démocratiques qui se mettent en place, dans lesquels les islamistes seront une partie importante de ce pouvoir, mais qui accepteront le jeu de la démocratie et instaureront des régimes démocratiques, en tous les cas, en marche vers la démocratie et qui permettent de s'attaquer aux problèmes réels de ces pays.
Révolte en Syrie avec reportage de Jérôme Bastion et des analyses d'Alain Grèche. Merci à tous, merci Alain Grèche, merci à Michel Siboni. Le blog d'Alain Grèche, c'est sur le monde diplomatique. Il y a un grand papier d'Alain Grèche dans le Diplo de ce mois-ci, mais vous pouvez le retrouver aussi sur son blog Nouvelles d'Orient, qui donne des clés précieuses chaque jour ou presque pour comprendre les conflits et les changements au Proche-Orient comme au Moyen-Orient. Merci à tous donc. C'était une émission préparée par Guy Vanctil. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org. Et puis on se retrouve aussi sur notre page Facebook. On est de plus en plus nombreux, on en est ravis, sur cette page Facebook. À partir de lundi qui vient, ce lundi prochain, là-bas lève le pied pour l'occasion des de la trêve des confiseurs pour 2 semaines et ça va être une occasion de vous régaler les oreilles avec des nouvelles diffusions de nos meilleures émissions de l'année. Donc restez à l'écoute pendant cette période. D'ailleurs, le répondeur continuera de marcher. On écoutera chaque jour les messages évidemment que vous nous envoyez au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et Grégory Salomonovitch vous attendra avec impatience chaque jour vos messages. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Bertrand Chonneton et Franck Aderer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez. Réclame.
Pour choisir un foie gras du Sud-Ouest, lisez l'étiquette.
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest. Quand c'est écrit, c'est garanti. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Aquitaine.
On fait quoi ?
Ça dépend. C'est combien le montant du jackpot loto de ce samedi ?
2 millions d'euros.
2 millions d'euros ?
Ouais.
Alors, on devrait le dire à la radio. Hein.
Montant à partager au rang 1, voire règlement.
Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Alors, il est 16h sur Inter. On se retrouve lundi à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
La SNCF donne l'heure. Tout sera OK pour la première vague de départ en vacances de Noël ce soir. À partir de 16h donc, c'est-à-dire maintenant, le trafic des trains sera revenu à la normale sur tout le réseau. Il a été très perturbé ce matin. La tempête Joachim a causé de nombreux dégâts en fait sur les voies. Plusieurs trains ont dû être annulés. D'autres ont connu des retards de plusieurs heures. Ça se bouscule au Portillon pour reprendre la Tribune. 5 offres de reprise ont été déposées pour le quotidien économique. La Tribune est depuis janvier placée sous procédure de sauvegarde. Faute d'investisseurs pour le renflouer. Il recherche donc depuis novembre des repreneurs. Les candidats à la reprise sont les groupes 20 Minutes, Imedia, France Économie Région, Alexia SAS et la financière patrimoniale d'investissement. La liste pourrait encore s'allonger dans les jours à venir, affirme la direction de la Tribune. Chez Le Jabi aussi, on semble se bousculer. 5 offres de reprise également pour le fabricant de lingerie ont été déposées. Suivant les cas, ces offres prévoient de conserver 135 et 220 des 450 salariés de la société. François Hollande en baisse, Marine Le Pen aussi, Nicolas Sarkozy et François Bayrou en hausse. C'est le résultat d'un sondage Ipsos Logica Business Consulting pour notamment Le Monde aujourd'hui. Ce sondage concerne les intentions de vote au premier tour de la présidentielle l'an prochain. Dans le détail, ça donne 32% pour le candidat socialiste, moins 3 points par rapport au sondage précédent, plus 1,5 point pour Nicolas Sarkozy avec 25,5%. La candidate du FN recule de 2 points avec 17% d'intention de vote au premier tour. François Bayrou est à 7%. Le candidat du Modem est toutefois devancé par Jean-Luc Mélenchon pour le Front de Gauche qui est à 7,5%. Ce sondage a été réalisé du 30 novembre au 5 décembre dernier auprès de plus de 5000 électeurs. La première audience du soldat Bradley Manning s'est ouverte ce matin devant un tribunal militaire de la base de Fort Meade près de Washington aux États-Unis. Bradley Manning est soupçonné d'être la taupe présumée donc de WikiLeaks. C'est lui qui aurait notamment transmis des câbles diplomatiques américains au site internet de Julian Assange. 2 résultats d'élections confirmés en Afrique. En Côte d'Ivoire, la commission électorale confirme donc aujourd'hui la victoire de la coalition Ouattara qui s'octroie donc ainsi la moitié des sièges du Parlement. Pour la République démocratique du Congo, ce sont les chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs qui reconnaissent aujourd'hui la réélection de Joseph Kabila à la présidence de la RDC. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées aujourd'hui au Caire dans des affrontements entre manifestants et soldats. Des militants hostiles au pouvoir militaire en place campent depuis fin novembre devant le siège du gouvernement. Et ce matin, donc, les soldats ont tenté de les déloger. 62,8 cm, c'est la taille de la plus petite femme au monde, affirme aujourd'hui le Guinness des records. Elle est indienne. Jyoti Amj a reçu le titre à l'occasion de son 18e anniversaire. Elle a été mesurée 3 fois au cours des dernières 24 heures, car sa taille, paraît-il, peut légèrement varier au cours d'une journée. Jyoti se dit très contente de ce record. Il faut quand même dire que sa petite taille est due à une maladie des os qui maintient son corps à la taille d'un bébé de 4 mois. Jyoti Amj est quand même très ambitieuse. Elle rêve d'une carrière au cinéma à Bollywood. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Mmh.
nous autres. Zoé Varier.
En Islande, le monde est flou, la réalité est mouvante, fluctuante.
Je dirais qu'il doit y avoir quelque chose comme entre 20 000 et 30 000 elfes ou gens cachés en Islande.
Y croire ou pas n'est pas la question, c'est comme ça. Les elfes sont parmi nous. Et ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que les elfes n'existent pas.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter. La différence.
Il paraît que vous n'êtes pas content.
Il suffit que j'ai le dos tourné pour que Guillaume Herner vous fasse du gringue et que vous répondiez. J'écoute la radio. Il n'y a pas qu'à moi que vous faites du gringue.
Je fais du gringue à tout le monde.
Je suis effondré. Et en plus, vous n'étiez pas là la semaine dernière. Comment je fais, moi, hein?
Je vous aime.
Moi aussi. À 17h, on se retrouve.
Allez, à tout à l'heure.
Allez, à tout à l'heure.
Quand la musique donne sur France Inter.
Juste avant de retrouver Hubert Félix Thiéphen et le groupe Mustang, c'est notre émission de cet après-midi. Un extrait du mix libre du mois de décembre. Aujourd'hui, un avant-goût très motivant du prochain album des Stuck in the Sound. Le titre, c'est Brother.
Le mix libre, à retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chanson, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Il est né à Dôle, dans le Jura. Il est né à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Il a dit « Je suis une sorte de limace qui sécrète des chansons dans sa trace ». Il dit qu'Elvis Presley porte en lui tous les chanteurs et les suiveurs qui s'en sont inspirés. Il a joué du Johnny avec son premier groupe, les Kaïd Boys. Il a eu son premier contact avec le rock'n'roll le jour où il a entendu « I wanna be your dog » en classe de 5e. Il est né sous l'influence divine de Léo Ferré. Il revendique l'héritage de la variété française, bonne ou mauvaise. Il s'est réveillé un jour au volant d'une nouvelle vie. Il ne s'endormira que le jour où il réussira l'équivalent français du Raw Power de Iggy Pop et les Stooges. Il a changé de cap en enregistrant son dernier album, Supplément de mensonges. Il a décidé avec son groupe de laisser les effets rockabilly du premier album. Il a été le géniteur de fils coupeur de joint. Il est aussi le petit-fils des années 50. Il est auteur-compositeur-interprète, mais il est d'abord chanteur. Il est auteur-compositeur et le chanteur de son groupe Mustang. Il reprend la route le 11 février 2012. Eux non plus. Il s'appelle Hubert Félix Thiéphen. Il s'appelle Jean Felzin et il est le leader du groupe Mustang. Deux initiales pour deux noms. TM, Thiéphen, Mustang. Non, ce n'est pas cet après-midi trademark sur France Inter. Quoique, peut-être, finalement, nous n'en sommes pas loin. Trademark, marque déposée, à l'image de cette première rencontre dans ce drôle d'endroit qu'est France Inter. Bonjour Hubert Félix Thiéphen.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va.
Bonjour Jean Felzin.
Bonjour.
Ça va?
Ça va, pas mal.
Tu as eu des problèmes de taxi?
Ouais, c'est ça. On s'est arrêté au niveau de la Tour Eiffel et depuis on a couru. Ouais. Donc voilà, il y a une panne de boîte automatique. Donc,
voilà, les taxis sont en panne. Voilà. Un vendredi après-midi, ça ne vous empêche pas de vous rencontrer. Vous vous êtes jamais rencontrés en fait réellement. Vous vous connaissez un petit peu.
Oui. Enfin, un petit peu de réputation et puis pour une autre raison, peut-être que je vais garder pour tout à l'heure.
Ah d'accord. Alors on va commencer par Hubert Félix Thiéphen. Une petite question à Jean Felzin qui représente le groupe Mustang cet après-midi. Ou une observation. Oh, il a un petit papier.
Moi, j'ai un... Non, c'est juste que...
J'ai fait, c'est pas du tout à la Mormoelle Thieffaine, c'est plus par association d'idées. Quand j'ai Mustang, ça m'a tout de suite fait flasher sur des choses qui m'intéressent beaucoup, qui m'a beaucoup intéressé, notamment les voitures et aussi les Indiens d'Amérique du Sud. Donc,
j'adore.
La question, c'est Lee Iacocca et Carroll Shelby ou Hernán Cortés et Francisco Pizarro?
Pizarro, je connais le peintre Pizarro, mais je connais pas les noms que vous me donnez, donc je me sens.
Pizarro, c'est le Z, c'est un conquistador.
Les deux sont des conquistadors.
Alors d'un côté, il y a deux personnes qui sont fait un nom dans l'automobile, et de l'autre côté, il y a deux conquistadors. Voilà.
D'accord. Eh ben, je suis plus du côté des conquistadors.
Quoique. La Mustang, c'est quand même une chouette bagnole.
Ah oui, c'est une chouette bagnole, mais c'est... en vrai, si on a choisi ce nom-là, c'était à l'époque où la musique des années 50 et du début des années 60 était vraiment un cliché pour nous, c'était quelque chose qui nous est fantasmé, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. C'est une musique qu'on aime, mais qu'on aime vraiment, qu'on connaît, par laquelle on ne se laisse plus avoir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait le bon son de guitare, tout ça, pour que ça nous plaise, il faut que la chanson soit bonne. Voilà, c'est des musiques qui nous passionnent, mais voilà.
On est et en même temps, conquistador, sûrement, parce que Mustang, comme les Shadows, sorte de conquistador à leur époque, et puis Guitar Fender, objet du conquistador aussi.
En vrai, c'est des guitares... En ce qui me concerne, en tout cas, c'est une guitare Gretsch, mais effectivement, Mustang, c'est une guitare Fender, et c'est un son... Bon, en vrai, les Shadows, c'était des Fender Stratocaster, mais effectivement, c'était le son... En tout cas, pour les Shadows, c'était le son des grands espaces. Ça a marqué beaucoup de gens, en tout cas, quand c'est arrivé. Ouais.
Ouais. Jean, une question ou une observation à Hubert-Félix Thieffaine que tu rencontres pour la première fois?
Moi, j'ai une question en fait, très particulière sur votre nouvel album parce que, en fait, on m'a branché